Priorité santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Depuis hier, vous l'avez vu, nous nous intéressons au ramadan et à ses conséquences sur la santé. Nous avons parlé hier des précautions à prendre en cas de diabète et je vous propose aujourd'hui de voir comment bien se nourrir pendant le ramadan, tout simplement pour des personnes en bonne santé. Alors durant cette période, les habitudes alimentaires des musulmans sont un peu bouleversées. Il faut éviter de faire certaines erreurs, comme augmenter les quantités de nourriture, ne pas boire suffisamment au moment de la rupture du jeûne, inverser les repas, ne pas se reposer suffisamment. Alors justement, quels sont les aliments à privilégier et ceux à éviter? Comment éviter les migraines, les crampes, la fatigue? Quelles sont les précautions à prendre? C'est ce qu'on va voir avec mon invité, le docteur Alain Delabosse, qui est médecin nutritionniste, inventeur de la chrononutrition. Il vient de publier « Bien se nourrir pendant le ramadan de l'été » aux éditions Albin Michel. Également avec nous, Stéphane Besançon au téléphone, qui est nutritionniste, directeur général de l'association Santé Diabète à Bamako, au Mali. Alors si vous avez envie de participer, de poser des questions, d'apporter un témoignage, un téléphone, le 33 1 84 22 75 75 et bien sûr les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Et en fin d'émission, nous parlerons de la résistance aux antibiotiques. Docteur Alain Delabosse, bonjour.
Bonjour Claire.
Merci d'être avec nous en direct dans Priorité Santé pour répondre aux questions des auditeurs. On a également avec nous Stéphane Besançon. Bonjour Stéphane.
Bonjour Claire.
Vous êtes à Bamako au Mali. On espère que la ligne téléphonique va être bonne. Elle m'a l'air tout à fait correcte pour que vous puissiez également répondre aux auditeurs. Alors pour commencer, Guillemette Moulin est allé devant la mosquée de Paris pour demander justement aux musulmans comment ils se nourrissent pendant le ramadan. Je vous propose de les écouter.
Le matin, des féculents, genre pâtes, riz. Et le soir, pour couper le jeûne, une soupe. Il faut éviter de trop manger, justement. Et ensuite, de l'eau jusqu'à temps que je puisse plus ni boire ni manger.
Ça dépend donc une salade, un plat et des desserts. Ça dépend quel genre de dessert, des fruits ou des produits laitiers, c'est bon.
On va baser sur les dattes, le lait, le fromage. Se mange beaucoup des choses sucrées. Et se boit beaucoup d'eau quand il fait chaud.
Mais moi, je change pas trop mes habitudes alimentaires. Je prends pas mal de liquide, eau, jus de citron, limonade et autres. Je prends un repas assez léger. Tout ce qui est viande et autres, je les évite. Tout ce qui est sucrerie, pâtisserie, j'en prends de façon un peu équilibrée, je dirais.
J'essaye du moins pendant le ramadan et puis même bien après et avant de m'alimenter de manière saine, des aliments qui sont plutôt faciles à digérer, comme la datte en elle-même, qui est un fruit qui permet en fait aux musulmans de rompre leur jeûne, qui est riche en sucre, en glucides et qui en soi, à lui seul, pourrait être un plat. Il faut ne pas, surtout pas faire, c'est de boire d'un coup et donc boire toutes les demi-heures ou trois quarts d'heure. Puis après, favoriser donc tout ce qui est aliments liquides au départ.
Moi, je prends un grec simplement, un seul repas.
Docteur Alain Delabosse, oui. Une réaction par rapport à ce micro-trottoir. Est-ce qu'il y a des bonnes choses où il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire, justement?
Il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire, certaines choses qu'il faut faire. Bon, d'abord, croire que manger sucré toute la nuit est bien, c'est une profonde erreur, qu'à mon avis, mon confrère Besançon va confirmer. C'est très dangereux. C'est comme ça qu'on voit, notamment en Algérie, puisque moi, je suis plus en relation avec les Algériens, étant donné que je suis sur Beurre FM la plupart du temps. Ça va déclencher des diabètes à la fin des 30 jours de jeûne. Donc il faut faire attention, on ne doit pas augmenter sa portion de sucre pendant le ramadan, sous prétexte que c'est le ramadan. Dire également qu'il ne faut pas manger de viande est également une profonde erreur, parce que l'aliment qui va le mieux vous protéger pendant le jeûne, c'est la viande.
C'est la
à condition de surtout pas la manger au moment de la rupture du jeûne. Au moment de la rupture du jeûne, l'estomac est tout rétréci, tout s'est rétréci pendant la journée. Il va donc falloir dégager ça doucement et gentiment avec des dattes, bien sûr, avec du lait d'amande ou du lait de coco, mais pas du lait de vache, parce que ça, c'est une vraie catastrophe aussi, et attendre un petit moment pour pouvoir ensuite prendre un potage. Et non pas du sucre. Surtout ne pas se gaver d'aliments et de boissons sucrées pendant la nuit du ramadan, parce que c'est une grosse erreur sur le plan nutritionnel.
Erreur qui est assez fréquente. Stéphane Besançon, est-ce qu'on aurait pu faire la même chose devant la mosquée, une des mosquées de Bamako, ou en fait de Dakar? On expliquera pourquoi vous êtes à Dakar en ce moment, Stéphane.
Oui, tout à fait. Hein. C'est exactement le même constat où on se rend compte souvent quand on fait des petites études alimentaires au moment de la période du Ramadan qu'on a vraiment ce passage à une alimentation beaucoup plus grasse et beaucoup plus sucrée. Et comme l'a dit le docteur en plateau, qui pose énormément de problèmes sur le moyen et puis sur le plus long terme. Et ce qui est paradoxal aussi, c'est qu'on a beaucoup de questions avant le Ramadan de dire « je veux profiter de cette période pour perdre du poids ». Or, avec ce passage à cette alimentation-là, les gens ont tendance à prendre du poids en fin de Ramadan et alors du coup, ils comprennent plus très bien ce qui s'est passé au milieu.
Alors, vous allez voir, donc je vous répondais pas là-dessus. Pour l'instant, c'est excellent parce qu'on a eu plein de questions là-dessus. Donc, on va entendre les auditeurs vous poser des questions sur cette question du « je prends du poids pendant le Ramadan », est-ce que c'est normal ou pas ? Et vous allez pouvoir leur répondre. On a Maki qui nous appelle de Conakry en Guinée. Maki, bonjour.
Oui, bonjour Claire et bonjour à vos invités nutritionnalistes ainsi qu'à vos auditeurs.
Et je crois que vous avez plein de questions à leur poser, alors on vous écoute Maki.
Justement. Alors Claire, depuis 2 ans aujourd'hui, je me suis engagé de façon définitive, je vais dire, à jeûner du 1er au 30e jour du Ramadan. Mais voilà que durant ces 2 dernières années, j'ai été confronté à pas mal de situations incompréhensibles qui me laissent perplexe. Alors ce qui m'amène à vous poser ma première question. S'il est nécessaire de manger à l'aube entre 4h et 5h pour démarrer le jeûne durant la journée.
Parce que je crois que vous ne le faites pas en fait. Parce que vous préférez dormir, c'est ça ?
Bah oui.
Je vous comprends. Docteur Alain de la Beauce, alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'essayer de dormir le plus possible et du coup de sauter ce repas avant la rupture, avant la reprise du jeûne, donc quand il fait encore nuit, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée ?
C'est une mauvaise idée, malheureusement. Désolé, Maki. Mais c'est pas une bonne idée. En fait, il faut dormir, bien entendu, et idéalement, moi je propose en France aux gens, je dis, dormez 8 heures environ, mais vos heures de sommeil ne doivent pas forcément se mettre pendant la nuit. Au contraire, même dans la journée, quand il fait très chaud, vous vous réfugiez à l'intérieur des maisons, vous mettez le plus possible à l'ombre, le plus possible au frais, et vous dormez. Et vous utilisez...
Vous êtes gentil, docteur de la Beauce, mais on fait comment quand on travaille ?
Ah mais attendez, on travaille pas 12 heures d'affilée, Claire, quand même. Soyons sérieux. Ou même si on travaille 12 heures d'affilée, il y a quand même du temps qui reste. Il reste encore 12 heures pour dormir et pour manger. Ouais. Non, ça c'est... Vous avez raison de poser la question, parce que c'est une question piège, et justement, c'est une erreur de dire ça. Parce qu'on a toujours le temps de dormir dans la journée, vous n'avez pas plus de 12 heures d'activité, que ce soit en France ou que ce soit en Afrique, ou que ce soit dans n'importe quelle partie du monde, on travaille 12 heures. Bon, il y a des fous comme moi qui travaillent quelquefois 18 heures, mais ça, c'est autre chose. Mais on peut dormir quand on veut. En principe, on a toujours des créneaux pendant lesquels il y a un arrêt du travail, et là, au lieu d'aller papoter avec les copains et les copines,
on fait une petite sieste.
Ça, c'est redoutable, parce qu'on dépense énormément d'eau à ce moment-là. Il faut aller faire une sieste et il faut surtout se taire.
D'accord. Donc, pour Maki, le conseil, c'est de se lever un peu plus tôt et donc de prendre un repas à ce moment-là.
C'est de manger léger au moment de la rupture du jeûne et de prendre un repas le plus lourd et le plus dense possible avant la reprise du jeûne.
Pour tenir pendant la journée.
Alors, il faut savoir quand même, Claire, que pour que les gens comprennent bien de quoi je parle, c'est que ça fait 10 ans que je suis le Ramadan, que je suis conseiller pendant le Ramadan, et disant que je vois comment ça se passe. Et
même si vous ne le suivez pas, le Ramadan.
Non, moi je fais le carême, je suis catholique, je fais le carême, chacun sa religion.
Chacun sa religion.
Et mais je m'entends très bien avec mes amis musulmans.
Tout à fait. Alors Maki, vous aviez, je crois, une deuxième question à poser.
Justement. Alors, j'ai aussi remarqué que pendant le jeûne, et durant même tout le mois de l'arrière, j'ai une quantité de salive qui me remplit la bouche. Chaque minute, je vais dire, ça a l'air dégueu, mais franchement, ça me dérange beaucoup. Parfois, je suis même obligé de me lever toutes les minutes pour aller me mettre bien, puisqu'en cette période, nous sommes encore à la fac, où je m'assois, et garder la salive en abondance dans ma bouche. On aurait dû me faire en sens, sauf que là, il ne s'agit pas des nausées.
Alors, conseil important, Maki, c'est avaler votre salive. Ne surtout pas cracher. Parce que ça, c'est une erreur. Plus vous allez cracher, plus vous allez dépenser d'eau, plus vous allez vous déshydrater, pire ça va être. Et plus vous allez à nouveau remettre de la salive dans votre bouche, parce qu'en fait, c'est le dessèchement de la bouche et le fait que vous êtes déshydraté qui prouve d'ailleurs que vous ne buvez pas exactement ce qu'il faudrait dans la nuit et certainement, mais vous l'avez dit tout à l'heure, que vous buvez beaucoup trop sucré. Après, vous déclenchez une sécrétion, ce qu'on appelle une hypersalivation. Stéphane connaît ça encore mieux que moi, puisque là-bas, il doit être placé dans ces situations difficiles. Et cette hypersalivation, mais il faut l'avaler parce que vous gardez ainsi ce que vous avez mis dans votre salive, c'est de l'eau. Il y a énormément d'eau dedans, donc il faut surtout pas la cracher.
Stéphane Besançon, vous avez envie de réagir probablement à ça, ce que vient de nous dire Maki.
Oui, je dirais la même chose, qu'il y a un problème d'hydratation et c'est quelque chose qu'on retrouve de très commun, notamment dans des pays où il fait très 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 chaud et du coup le plan hydratation, j'allais dire comment on planifie son hydratation, est extrêmement important. Là, le ramadan va commencer, suivant les zones, il peut faire entre 35 et 45 degrés. Donc c'est vraiment une question centrale d'hydratation pour éviter déjà les manques d'eau classiques, puis les déshydratations qui peuvent être sévères quand on passe 10 heures, par exemple, sans boire à 45 degrés.
Alors, je pense que vous serez entièrement d'accord avec moi, Stéphane, pour dire que justement, quand il fait 40, eh bien, il vaut mieux se terrer le plus possible à l'ombre et à l'abri d'une maison et ne surtout pas être dehors et pouvoir se reposer le plus possible et profiter des heures plus fraîches de la nuit pour justement pouvoir prendre le temps de manger et de boire des boissons très très riches en sels minéraux de façon à éliminer le plus lentement possible dans la journée.
Mais en sels minéraux, ça veut pas dire en sucre.
Ah non, surtout pas. Ne confondez pas.
J'allais rebondir. Stéphane, oui. Là-dessus, parce que les gens, quand ils parlent de boissons, notamment en Afrique de l'Ouest, la boisson, c'est pas l'eau. Souvent, la boisson, c'est les sucreries. Donc, il faut bien revenir là-dessus et être très clair que l'hydratation doit se faire au maximum avec de l'eau. Et pas avec des sucreries, parce qu'autrement on retombe sur le phénomène qu'on a décrit précédemment.
Alors pour éviter, parce que la plupart des gens vous diront, et ça je suis sûr qu'on vous l'a dit à vous aussi Stéphane, et moi c'est Alain, hein, parce qu'on va pas se donner du docteur, et les gens vous diront, ah oui mais moi j'aime pas boire de l'eau, et c'est pour ça que j'ai proposé dans mon bouquin cette année des soupes, des potages, des bouillons, j'ai remarqué avec surprise...
Qui permet de prendre du liquide.
Oui, j'ai remarqué avec surprise que le bouillon magie, était utilisé en Afrique, c'est une très bonne idée pendant le ramadan. Évidemment, faut pas en mettre 6 dans le même truc parce que il faut pas exagérer non plus la charge en sel et surtout faire attention si on est sujet à de l'hypertension à ne pas hyper saler parce qu'on risque d'autres problèmes. Mais je propose des boissons qui sont des boissons salées et je propose bien sûr la chorba, je propose la rira, je propose des soupes qui sont très très denses, qui contiennent beaucoup de féculents, notamment la rira, ce sont des haricots, je crois, qu'ils mettent dedans.
Stéphane Besançon, vous voulez rajouter un élément?
Je voudrais juste, comme on l'a déjà décrit dans plusieurs chroniques que je fais avec vous, Claire, la question de la quantité sur le cube, où il faut être très méfiant parce que les quantités de sel sont vraiment très importantes, donc il faut juste être vigilant sur la quantité, surtout pour les gens qui présentent une hypertension. Et après, je suis, par exemple, au Mali, le Kingeliba, qui est une boisson traditionnelle, une sorte d'infusion, en fait, de feuilles, est très utilisée pendant cette période, et c'est quelque chose qu'on met très en avant, et là aussi, en faisant attention aussi, que c'est intéressant, s'il n'y a pas 10 sucres dans le verre de Kingeliba. C'est toujours de ça, de faire attention, d'avoir une pratique qui est jusqu'au bout positive, en fait.
C'est ça. On a maintenant... Merci beaucoup, Maki, pour toutes vos questions. On a Tariq qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Tariq, bonjour.
Oui, bonjour, Claire. Bonjour.
On vous écoute.
Bonjour, Tariq.
Le problème, j'ai une migraine assez forte qui ne laisse rien faire pendant la journée. Et après ces 3 jours-là, ça redescend un peu. Alors on me dit que c'est parce que je consomme les incitants, comme par exemple le thé. J'aimerais justement savoir, est-ce que c'est vraiment le thé là qui me cause ces migraines-là? Et après, voilà, comment faire pour éviter ces migraines? Parce que
c'est très intéressant votre question, Tariq, parce qu'on a eu beaucoup de questions là-dessus, sur la migraine, les premiers jours du ramadan essentiellement.
Alors, on a attribué les migraines aux buveurs de café qui arrêtent de boire des cafés et on dit vous avez des migraines parce que vous buvez du café. Or, je me suis aperçu en regardant vos questions que a priori, ce sont plutôt des buveurs de thé ou des boissons. Donc, attribuer l'arrêt du café à l'arrêt du café n'est pas forcément, ça peut être, mais ça n'est pas forcément la raison principale. La raison principale, elle est que vous ne buvez pas suffisamment pendant la nuit et que vos boissons sont sucré au lieu d'être salé. Si vous buvez salé, si vous buvez plus de 2 litres, et même dans vos régions, c'est 3 litres, si vous buvez 3 litres de potage, de soupe agréable, n'exagérez pas trop le piment, s'il vous plaît, parce que vous allez avoir un estomac qui va réagir beaucoup trop.
Mais il faut, les migraines sont provoquées par le manque d'hydratation.
Par le manque, c'est une déshydratation, tout simplement.
Oui, Stéphane, vous trouvez effectivement autour de vous qu'on se plaint beaucoup de ces migraines ?
Oui, mais souvent c'est lié à, quand on regarde plus en détail, c'est lié à l'hydratation. Effectivement, c'est souvent lié à des gens qui s'hydratent relativement mal ou pas assez, et qui du coup présentent des migraines assez fortes, et qui d'ailleurs en début de Ramadan mais peuvent se poursuivre si les gens ne corrigent pas. En général, elles s'arrêtent après parce que comme les gens se plaignent, le plan d'hydratation est corrigé en fait. Mais pour des gens qui ne le corrigent pas, ils peuvent se plaindre tout le long du Ramadan.
Merci beaucoup, Tariq. On a Yamina qui nous appelle de Lyon, en France. Yamina, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Yamina.
Alors, en fait, moi j'ai constaté, enfin, je fais Ramadan depuis un peu plus d'une trentaine d'années. Ces dernières années, j'ai constaté que je prenais du poids, en fait. Et dans mon entourage. Et je voulais savoir en fait quel type de régime alimentaire était plus conseillé pendant de la coupure du jeûne jusqu'à l'aube, parce que bon, des fois on fait deux repas, mais on peut en faire un peu plus, hein, par intermittence, quand on veille pas en fait, quand on dort pas. Et je coupe le jeûne avec des dattes ou avec de l'eau, en prenant des petites gorgées. Et je voulais connaître en fait les bienfaits, parce que écrit dans le Coran, enfin, c'est une consigne. Et constater que c'est vrai que ça coupait en fait l'envie justement de boire des boissons sucrées. Mais je voulais savoir si vous aviez des connaissances.
Ouais, sur pourquoi particulièrement de... J'ai envie de vous demander, Yamina, vous en prenez combien de dates au moment de la rupture du jeûne?
Moi, je prends à peu près 2-3 dates.
2-3 dates. Ah, c'est parfait.
Ça, c'est très raisonnable.
Tout de suite, le docteur de la Beauce dit c'est parfait.
C'est très raisonnable.
Alors, je trouve beaucoup de... Alors, Yamina, en tout cas, la question que vous soulevez de la prise de poids pendant le Ramadan, on a eu énormément de questions là-dessus. Donc, je vous remercie de la poser parce que c'est très intéressant. Qu'en est-il, docteur?
Il faut savoir ce qu'Amina va manger après avoir mangé ses dattes. Qu'est-ce que vous mangez après avoir mangé vos dattes, Amina?
En fait, un repas type pendant Ramadan, moi je fais de la charba.
Oui, ça c'est bien. Mais vous la prenez quand, votre charba?
Justement, c'est le premier repas, enfin, c'est la première chose que je mange après mes dattes. Je bois un bol de charba, je prends une salade, et après je mange ou des briques ou des feuilletés, enfin... on appelle ça la majouba, enfin des plats cuisinés.
Et pas mal de délicieux desserts après, c'est ça?
Ah non, je ne suis pas trop sucrée.
Non, vous n'êtes pas trop sucrée.
Je suis plus salée.
Alors,
et
je
après,
pense que...
des fois, bon, du poulet ou de la viande, voilà. Des légumes, voilà.
Et avant de redémarrer le jeûne le matin, vous refaites un repas?
En fait, moi, avant 4 heures, des fois, je mange du couscous, mais pas du couscous cuisiné. C'est juste la semoule avec un peu de sucre, de la cannelle, avec un verre de lait fermenté. Sinon, je prends... j'aime bien la charba, donc je reprends des fois de la charba avec des briques.
Et en fait, j'avais envie de vous demander, avant que le docteur de la Beauce vous réponde, mais et du coup, vous avez l'impression que vous mangez plus en période de Ramadan?
En fait, non, c'est pas tant ça. C'est que ce que je mange moins, mais le problème, j'ai une très très mauvaise digestion. Donc, à savoir aussi, je bois beaucoup dans la nuit, avant de dormir, et le matin, quand j'ai fini de manger, je bois beaucoup.
Alors, docteur de la Beauce, quels sont les conseils que vous posez, vous donnez à Yamina, qui pose du coup plein de questions très intéressantes.
D'abord, non, c'est formidable, mais Yamina, si, et ça, je pense que Stéphane, qui nous écoute, a dû sourire comme moi, en croyant ne pas manger de sucre, Yamina en mange beaucoup, en fait, parce que dans tous les aliments qu'elle a décrits, il y a des sucres lents. Parce qu'on parle toujours des sucres, mais il y a les sucres lents, les sucres cachés. Vous savez, on dit cachés. Bon, en fait, c'est un peu idiot, parce que les sucres lents, ce sont simplement des sucres à libération plus lente, tout simplement. Ils sont pas cachés. Mais vous avez, Yamina, accumulé énormément de petites choses ensemble, et chacune des petites choses ne va pas vous nourrir correctement, si bien que c'est une sorte de grignotage que vous faites pendant toute la nuit. Et ça, c'est une erreur.
Parce que le grignotage fait qu'en fait, on mange beaucoup.
Ça fait terriblement grossir et on ne se rend pas compte qu'on mange beaucoup plus. Vous savez, c'est le coup classique des repas qu'on fait debout avec un buffet. Sans s'en rendre compte, on mange 30% de plus. Ça, c'est connu. Tous les nutritionnistes savent ça. Ne jamais faire de buffet, c'est une catastrophe.
Alors, par contre, je suis obligée de vous couper la parole, docteur de la Beauce, parce que on a les informations. On se retrouve dans 3 minutes, juste après les infos, pour répondre justement à Yamina sur le problème de grossir pendant le ramadan.
Priorité santé. Claire Hédon.
Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de Priorité Santé. Aujourd'hui, nous essayons de voir quelles sont les clés d'une alimentation équilibrée pendant le jeûne du ramadan avec le docteur Alain Delabeau, médecin nutritionniste, inventeur de la chrononutrition. Il vient de publier « Bien se nourrir pendant le ramadan de l'été ». C'est un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Et également avec nous, Stéphane Besançon, qui est nutritionniste, directeur général de l'association Santé Diabète à Bamako, au Mali. Mais en ce moment, il est à Dakar. Il nous dira d'ailleurs pourquoi, parce qu'il y a une conférence en ce moment sur le diabète. Et vous pouvez continuer à nous appeler au 33 1 84 22 75 75. Et on a, juste avant les informations, on a entendu Yamina qui est à Lyon et qui nous disait que pendant le ramadan, elle a conscience qu'elle prend du poids et du coup elle voulait comprendre un petit peu dans son alimentation qu'est-ce qui n'allait pas, pourquoi elle prenait du poids. Elle avait l'impression de pas trop manger, pas plus que d'habitude, mais en fait, ce qu'on a compris, c'est qu'elle grignotait, et c'est ça qui fait un peu grossir, docteur Delabeau.
Oui, Yamina, ne vous inquiétez pas, il y a rien de grave, vous pouvez très bien rectifier le tir très facilement, simplement, au lieu de manger un plat, puis un autre, puis encore un autre, et encore un autre, parce que vous nous avez énuméré pas mal d'aliments différents. Il faut simplifier votre alimentation.
Oui, parce que j'ai entendu une soupe, une salade, puis de la viande.
Puis derrière, il y a encore d'autres trucs. Donc, on n'en finit pas, si vous voulez. Donc, ce que je vous conseille à tous et à toutes, aussi bien à vous, Yamina, qu'à tout le monde, c'est à la rupture du jeûne. De manger les dattes, 3 dattes, c'est très bien. De prendre un verre de lait d'amande ou une boisson sucrée, c'est bien. Mais pas plus d'un verre. Et puis d'embrayer immédiatement après ou peu de temps après par un potage très important au point de vue volume, une soupe légère, ce qui sera beaucoup plus facile à boire que de l'eau, qui sera en plus un réhydratant très très rapide, alors que l'eau réhydrate beaucoup plus doucement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on se réhydrate beaucoup plus vite avec des potages. Et puis une fois qu'on a fait ça et qu'on a mangé éventuellement un peu de poisson, si dans une région piscicole, ou un tout petit peu de viande blanche, ou rien du tout, on va attendre, on va aller se reposer, et on va se créer un créneau d'une demi-heure à peu près avant la reprise du jeûne.
Donc après on va se coucher en gros. Après
on se couche ou on se repose, et c'est dans la demi-heure qui précède la reprise du jeûne qu'on doit manger très 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 de façon très dense, de façon très lourde, de façon à pouvoir digérer le plus lentement possible cette nourriture qui va vous accompagner pendant une bonne partie de la journée et qui va vous permettre d'être beaucoup moins fatigué.
Stéphane Besançon, vous entendez les mêmes choses justement que vous soyez à Bamako ou à Dakar en ce moment sur le fait qu'il y a pas mal de gens qui prennent du poids pendant le ramadan ?
Oui, ça c'est tout à fait clair. Il y a beaucoup beaucoup de gens qui prennent du poids. Et puis de toute façon, au niveau international, la plupart des études ont mis ça en évidence. Il y en a une très grande qui a été faite en Arabie Saoudite, je pense que l'année dernière ou il y a 2 ans, qui mettait vraiment ça en évidence de manière très claire. Et je pense qu'Alain a décrit tout le phénomène et puis il a très bien décrit aussi les solutions. C'est-à-dire c'est de re-rationaliser les repas avec des prises alimentaires qui sont plus en grignotage mais qui sont sur des moments principaux. Et surtout, le repas du matin avant le démarrage du jeûne, qui doit être extrêmement lourd pour justement permettre de tenir la journée.
Et c'est intéressant parce que c'est pas l'objectif du ramadan. L'objectif du ramadan et de ce jeûne, c'est plutôt bon pour la santé, c'est plutôt de s'alléger. Et on est allé dans quelque chose, docteur Delabeau, qui est presque contraire à l'idée de départ du ramadan. Non, je me trompe en disant ça?
Non, ça n'est pas voulu par les gens. Oh. Si vous voulez, il y a une angoisse. Il y a une angoisse d'avoir faim, il y a une angoisse d'avoir soif. Elle a été, c'est pour ça que j'ai réécrit mon livre. Vous savez que j'en ai déjà écrit un. On a eu l'occasion d'en parler d'ailleurs ensemble, il y a 7 ans. Vous vous rendez compte, ça passe vite. Hein. Et je l'ai écrit cette année parce que les paramètres ne sont plus les mêmes. Il y a en France, il n'y a actuellement que 4h30 de rupture. Donc il faut aller caler dans ces 4h30. Mais je constate avec plaisir que mon bouquin peut être très utile aussi, puisque d'après ce que j'entends dire par Stéphane, manifestement les problèmes sont partout les mêmes, y compris le problème de poids. Vous avez aussi, et on n'en parle pas, mais des gens qui maigrissent, et ça n'est pas bon non plus d'ailleurs. En fait, ce qu'il faut, c'est essayer de garder un équilibre alimentaire en amenant donnant au corps exactement le nombre de calories dont il a besoin, sans tenir compte de l'aspect intellectuel du ramadan. En fait, les gens mélangent les deux, et comme il y a une anxiété, ils se mettent à grignoter.
Stéphane Besançon, vous avez évoqué quelque chose que je trouve d'intéressant, on l'a aussi dit hier dans l'émission, c'est qu'il commence à y avoir des études scientifiques, justement, sur le ramadan et sur ses conséquences sur la santé.
Oui, il y en a de plus en plus, et je pense que le diabète notamment, alors là pour les patients diabétiques, a amené beaucoup de réflexions et beaucoup d'études. Et c'est vrai que beaucoup d'études à la base ont été un peu lancées pour répondre à cette problématique de diabète et jeûne du ramadan, qui, comme vous en avez parlé hier, peut être assez compliqué. Et du coup, ça a découlé, après, comme souvent, d'une étude de base par rapport à une pathologie. On se pose des premières questions, apparaît des profils alimentaires, puis on se dit tiens, ça c'est bizarre, c'est pas ce qu'on attendait. Et puis les études, petit à petit, ont dépassé le cadre juste du diabète pour essayer de voir plus largement si ces problématiques qui étaient retrouvées dans le cadre des diabétiques se retrouvaient dans la population générale. Notamment, l'étude en Arabie Saoudite, c'était un peu ça le cheminement. Ça a été d'abord une étude sur les patients diabétiques, et puis qui a essaimé et qui s'est étendue à la population générale.
Et Stéphane, vous êtes en ce moment à Dakar au Sénégal, parce qu'il y a une rencontre justement sur le diabète. Ce sont des choses du coup que vous évoquez, la question du ramadan en ce moment?
Alors oui, c'est juste pour rebrousser, donc c'est les rencontres de diabétologie de Dakar qui sont un très gros espace d'échange d'Afrique de l'Ouest sur la question du diabète. Mais du coup, il y a forcément toute une part liée à la nutrition, et le ramadan est très présent parce que le calendrier fait que le ramadan va démarrer. Donc forcément, c'est une question qui est beaucoup abordée, qui est abordée à la fois dans le programme officiel du congrès par beaucoup de choses sur diabète et ramadan, nutrition et ramadan, tout ce qu'on est en train de discuter, que vous avez discuté hier, mais aussi parce que le Sénégal, avec le ministère de la Santé et d'autres ministères rattachés, a lancé un programme de prévention qui s'appelle M-Diabète et qui a une branche M-Ramadan passant par le SMS et qui a pour but justement de faire tout un plan de conseil des personnes avant le ramadan et pendant le ramadan, qui est un programme extrêmement intéressant et du coup qui a fait hier l'objet quasiment d'une journée à part pour parler de cette question-là.
Et le professeur Marie Cassissé nous en a d'ailleurs dit un mot hier. Merci beaucoup en tout cas pour cette question. On a, je crois, Baldé qui nous appelle. Baldé, merci beaucoup donc Yamina pour toutes vos questions. On a Baldé qui nous appelle de Conakry en Guinée. Baldé, bonjour.
Bonjour Claire et bonjour aux invités.
On vous écoute, Baldé.
Merci. Au fait, on nous dit dans la religion musulmane que le jeûne apporte de la santé à l'organisme. Alors, pour ce faire, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est comment se débarrasser de la mauvaise haleine. Puisqu'on nous dit de ne pas se brosser la bouche pendant la journée. Imaginez une bouche qui ne voit pas une brosse et une batte dentifrice, c'est que ça peut donner.
Alors, comment éviter la mauvaise haleine ? On a plein de questions, merci Baldé.
Bonjour
c'est
Baldé.
Plein de questions là-dessus, sur la mauvaise haleine.
Je vous rassure Baldé, les Français de France se plaignent aussi d'avoir mauvaise haleine. Ne vous tracassez pas, ça n'est pas parce qu'il fait beaucoup plus chaud chez vous, c'est tout simplement parce que vous vous déshydratez et surtout votre estomac s'ouvre. L'estomac ne se referme pas bien, ça dépend de ce que vous avez mis dedans. Si vous avez mis justement un repas extrêmement conséquent en fin de nuit, juste avant la prise du jeûne, vous allez mieux gérer votre digestion et surtout vous allez permettre à votre estomac d'utiliser ses sucs gastriques et donc de pouvoir se débarrasser de cette odeur. Parce qu'il faut savoir qu'un estomac vide, ça sent très mauvais. J'ai fait 3 ans de chirurgie, je peux vous dire que quand on ouvre un estomac, c'est pas agréable, parce que ça sent très mauvais l'intérieur d'un estomac. Et ce que vous sentez, ça n'est pas votre haleine dans la bouche, donc ne vous tracassez
pas. C'est l'estomac qui remonte.
C'est votre estomac qui s'ouvre et ça cocotte, exactement comme une bouche d'égout qui vient de s'ouvrir.
Donc si on prend le repas avant la rupture du jeûne, on évite cette question
On va avoir beaucoup moins de problèmes, et surtout si on boit suffisamment et qu'on boit des boissons suffisamment riches en sels minéraux, mais pas trop non plus, comme le disait très justement Stéphane tout à l'heure.
Merci Baldé. On a Djibrila qui est à Maroua au Cameroun. Bonjour Djibrila.
Bonjour Claire.
Alors Djibrila, il va falloir parler bien près du téléphone si vous voulez qu'on vous entende. Et on vous écoute, je crois que vous êtes enceinte.
Ok. Bonjour Claire.
Oui, bonjour.
Oui, ma préoccupation est que je suis enceinte de 7 mois et le mois de ramadan commence demain. Ma préoccupation, c'est est-ce que la vie du bébé ne sera pas en danger? Est-ce que je ne veux pas manger, je ne veux pas boire toute la journée?
Est-ce qu'on peut faire le ramadan quand on est enceinte? En fait, c'est vraiment ça la question que vous posez. Alors, docteur Delabo.
Très sincèrement, à 7 mois de grossesse, moi, je suis pas chaud pour que vous le fassiez, Djibrila. Du moins que vous ne fassiez à cette époque-là de l'année. Il faudrait que vous puissiez avoir beaucoup plus de temps de rupture du jeûne pour pouvoir le faire correctement.
Mais il y a un risque pour le bébé, en fait.
Ah là, il y a un gros risque pour le bébé parce qu'il fait très très chaud en plus à cette époque de l'année. Donc, vous risquez vraiment une déshydratation et ça peut être dramatique pour le bébé. Demandez à votre médecin sur place, je suis à peu près certain qu'il va comme moi vous dire, et je pense qu'on va demander à François son avis, mais pense qu'il sera d'accord.
Stéphane Besançon.
Stéphane, pardon.
Stéphane, vous avez des questions comme ça? Je suis enceinte, est-ce que je peux faire le ramadan? Je croyais que c'était une des, justement, circonstances où on n'a pas à faire le ramadan.
Alors, une des questions centrales qu'on a, justement, c'est ça, c'est par rapport à un problème X, Y, on a parlé du diabète, on peut parler de l'hypertension, on peut parler des femmes enceintes, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de situations où on nous pose cette question, est-ce que je peux faire ou pas faire, ou alors de gens qui nous disent, j'ai déjà fait par le passé, donc je sais comment faire, je vais refaire. Alors là, c'est pas pour la grossesse pour le coup, mais plus pour le diabète et l'hypertension. Alors là, je suivrai totalement l'avis d'Alain, je pense que, vu la température actuellement, le temps de jeûne qui est très très long, etc., ça me semble être très périlleux et qu'il faut absolument prendre un avis médical. Et de manière générale, pour toutes ces situations-là, je pense qu'il faut démarrer le jeûne uniquement après un avis médical, si l'avis médical est positif. Et si l'avis médical est négatif, il ne faut pas s'offusquer parce que très clairement, l'islam prévoit que pour des situations comme ça, le jeûne n'est pas obligatoire. Je pense qu'il faut le rappeler.
Et l'imam de la mosquée sera d'accord avec ça, on peut lui en parler aussi.
Normalement, oui. Nous, je sais que, par exemple, pour les patients diabétiques, c'est le cas au Sénégal, c'est le cas au Mali, c'est le cas dans beaucoup d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ou au Maghreb. En général, les médecins travaillent aussi avec les autorités religieuses pour essayer de faire passer ces messages-là, pour éviter des catastrophes dans certains cas où on sait à l'avance que ça va être médicalement très dangereux.
Voilà, ça me paraît très important comme précision. Merci beaucoup, en tout cas, Djibrila. J'espère qu'on vous a convaincu, Djibrila.
Oui. Et par exemple, quel est l'aliment que je peux manger pour m'apporter assez d'énergie?
Ça veut dire que vous voulez quand même continuer à faire le ramadan?
Non, je pose quand même la question.
Ah oui, Doc, vous posez quand même la question. Quel aliment qui donne le plus d'énergie?
Alors, ce qui donne le plus d'énergie pour démarrer la... Ce qui donne le plus d'énergie, c'est d'abord de mettre l'aliment le plus nourrissant juste avant la prise du jeûne. Ça, c'est très important. Et puis, dans cet aliment nourrissant, de privilégier les viandes, le plus possible des protéines animales et des protéines végétales. Donc, les viandes et puis les aliments végétaux qui contiennent beaucoup, beaucoup de protéines végétales.
Donc, merci beaucoup et bon courage, Djibrila. On a Amadou qui nous appelle de Bamako, au Mali. Amadou, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Aminata.
C'est Aminata. Bon,
Aminata, alors... qui vous appelle de Dakar, oui.
D'accord, Aminata. C'est parce que c'est pas grave. Vous inquiétez pas. On a aussi Amadou qui attend, qui dit mais c'est pas vrai. Moi, je vais aussi poser une question. Mais Aminata, on vous écoute d'abord. Allez-y.
Oui, madame. Mon problème, c'est que pendant le ramadan, surtout les premiers jours, j'ai des migraines très intenses là.
Et là, vous avez
Des migraines toute la journée.
Oui. Alors ça, on a déjà évoqué la question de la migraine, mais on va y revenir. Mais dans votre message, vous disiez que vous étiez aussi avec un problème de constipation.
Constipation, voilà. Effectivement.
Alors, docteur Delabo.
Les deux vont ensemble, Amina. Si vous êtes constipé et vous avez la migraine, parce que vous êtes en état de déshydratation. Manifestement, vous buvez sûrement pas suffisamment de liquide dans la nuit et vous avez peut-être privilégié les sucres, ce qui provoque une constipation énorme. Donc, stoppez complètement les sucres dans les boissons. Prenez un peu, le sucré, vous l'avez dans les dattes, ça suffit largement.
Mangez des légumes et buvez suffisamment et ça...
Voilà. Mmh. Et surtout, pensez à boire justement des boissons salées et non pas sucrées, ce qui va libérer votre intestin et va vous permettre de ne pas avoir de constipation.
Vous avez le même genre de plainte, Stéphane?
Je bois beaucoup après avoir coupé le... Je bois beaucoup, mais j'urine aussi beaucoup.
Ah. Oui, mais vous mangez quoi et vous buvez quoi? Parce que le problème, c'est que si vous ne mangez pas, si vous ne buvez pas suffisamment...
Est-ce que vous buvez sucré, Aminata?
Non, j'aime pas trop les légumes.
Ah, c'est bien. Et est-ce que vous mangez suffisamment de légumes?
Ah, légumes, un peu seulement.
Et voilà. C'est Stéphane, c'est quelque chose de fréquent, ça aussi. Stéphane Besançon.
Oui, mais alors, il y a le problème d'hydratation, mais il y a aussi le problème d'une alimentation hyperglucidique et avec des sauces dans lesquelles il y a très très peu de légumes. Et une alimentation sur la journée où la part des légumes est quasiment insignifiante, en fait. Légumes, salades, choses comme ça. Donc on a vraiment des alimentations, souvent sur l'Afrique de l'Ouest, qui sont ultra glucidiques et qui posent ce genre de problème à moyen et à long terme.
Oui, c'est ce que j'ai constaté, Stéphane, puisque moi, je découvre un petit peu en même temps que avec tous les courriers qu'on nous envoie, c'est passionnant. Ce que je découvre, c'est qu'en fait, l'alimentation africaine est très, très riche en glucides, beaucoup plus qu'en métropole, beaucoup plus que chez nous.
Hein. Donc, l'importance des légumes. Merci, bon courage, hein, Aminata. J'espère que vous allez du coup pouvoir suivre ces conseils. Et on a bien Amadou, parce que je sais bien qu'il y a Amadou. Hein. Bonjour Amadou, vous appelez de Bamako, au Mali.
Oui, bonjour Claire.
On vous écoute, Amadou.
Je vous appelle depuis...
Alors Amadou, vous n'avez pas par hasard votre poste de radio allumé ?
Ok, d'accord.
Et oui, et Didier. Alors Didier qui est derrière, il est très agacé dans ces cas-là. Parce que Didier, il vous a dit d'éteindre votre poste de radio. Et on fait ça parce que du coup, on n'entend pas ce que vous dites. C'est pas pour vous ennuyer. Vous allez tout entendre dans le téléphone. On vous écoute, Amadou.
Oui, je me suis éloigné.
Et voilà, ça va ? C'est mieux. Et on vous écoute, Amadou.
Ok, d'accord. Moi, la question que j'ai à poser... Je souhaiterais savoir qu'est-ce qui est conseillé pour la coupure du jeûne entre les boissons chaudes telles que le thé, le lait, ou encore les boissons fraîches telles que les jus.
Alors, telles que les jus ou telles que l'eau ? Vous avez bien entendu ce qu'il dit, docteur de labo, chaud ou froid ?
Alors, ça peut être chaud ou ça peut être froid, suivant. Ça peut être. Mais alors, si c'est chaud, l'idéal, ce sont les tisanes, c'est le thé et les tisanes qui sont excellents. Attention à pas vous gaver trop de thé avant d'aller vous coucher parce que vous n'avez pas dormi. Il y a quand même la théine est assez forte, surtout que vous faites en général votre thé beaucoup plus fort en Afrique que nous le faisons en France. Donc, allez-y doucement sur le thé. Mais une boisson, ça peut être des potages surtout. C'est pour ça. Mais ça peut être un potage glacé, c'est très bon.
C'est ça. Attention plutôt à la quantité de sucre que vous mettez dedans.
Exactement. C'est en principe, on ne met pas du tout de sucre dans son thé.
Merci beaucoup, Amadou, pour votre question. On a Ange qui nous appelle de Dakar, au Sénégal. Ange, on vous écoute.
Bonjour. Au fait, je suis étudiant et je voudrais avoir des conseils à propos pour le ramadan, pour ne pas être trop fatigué, parce qu'actuellement, on est coincé entre les révisions et les cours du second semestre.
Et ça, c'est dur pour vous parce qu'il va y avoir les examens en plein ramadan. On fait
que c'est ça.
Ouais, vous avez posé une très très bonne question là-dessus. Oui. On fait comment pour pas être trop fatigué, justement.
Ça fait plusieurs jours qu'on m'interroge là-dessus puisque vous savez qu'on passe le bac. Les jeunes passent le bac.
Ils ont le bac philo aujourd'hui, on l'a entendu.
Ils ont le bac philo aujourd'hui et c'est le jour qui précède le ramadan. Donc je passe mon temps à donner des conseils. Là-dessus, Ange, je vais vous donner les mêmes conseils qu'à vos collègues étudiants partout dans le monde. C'est faites attention surtout à dormir suffisamment entre les épreuves, plutôt que de réviser comme un fou, ce qui vous servira à rien au dernier moment, votre mémoire automatique se mettra pas en route. Donc c'est pas la peine. En revanche, dormez suffisamment et surtout pensez à manger de façon très très conséquente avant d'aller passer vos examens, de façon à être en forme et avoir un tonus formidable, que je vous souhaite d'ailleurs.
Et on vous souhaite de réussir aussi, Ange. Stéphane Besançon, vous avez envie de rajouter quelque chose ?
Non, je pense qu'Alain a tout dit. Hein. La question du repos est centrale, de bien planifier. Et surtout, après le problème, nous, pour être honnête, hein, moi j'ai le même problème au bureau, par exemple. On est en train de réaménager les horaires de travail à nos bureaux à Bamako, ou à Dakar, ou à Ouagadougou, etc. Parce que les gens, après aussi, doivent réorienter leur temps de travail et les moments où ils sont opérationnels. Parce que c'est sûr que quand on jeûne un très long moment, faut pas s'attendre à ce qu'après 8 ou 9 heures de jeûne, les gens soient très très opérationnels à travailler sur un document très complexe ou avoir une lecture très critique de quelque chose, parce que là, juste, la fatigue est très importante.
Je voudrais vous faire part aussi d'une question de Lassané, on n'arrive pas à l'avoir au téléphone, et il dit, le 27-28 juin prochain, en plein ramadan, je vais devoir passer des tests d'aptitude physique dans le cadre d'un recrutement militaire. Il s'agit d'une course de fond, une course d'un kilomètre, une course de 8 kilomètres, et ces tests s'effectueront très tôt le matin. Quelles sont les précautions à prendre, docteur de labo?
Alors, si sa course est au moment juste à la rupture du jeûne ou peu de temps après, ça va pouvoir se faire à condition 1, qu'il mange, mais alors énormément avant, et qui pense à se charger le plus possible de boissons riches en sels minéraux, et surtout c'est là que la shorba est extrêmement importante et très utile, parce que pour la course la shorba c'est magnifique, c'est un des meilleurs aliments qui soit pour les courir. Et puis surtout dès qu'il a couru ses 8 kilomètres, au lit tout de suite à l'ombre et dodo, hein, parce que sinon il va pas tenir le coup.
C'est ça, donc voilà. qui est vraiment important. Ah, je voudrais vous faire part de quelques questions qu'on a reçues sur Facebook. Jibril dit, il m'arrive souvent au moment de la rupture de trop boire et du coup j'arrive pas à manger.
Oui, j'ai lu ça aussi tout à l'heure, j'ai trouvé ça assez étonnant. Mais ça dépend ce que vous buvez. Et si vous buvez des boissons sucrées, vous avez peut-être mis du sucre dans vos boissons, auquel cas après on peut plus manger. Donc faites bien attention à ça. Buvez des boissons qui n'empêchent pas d'avoir faim, c'est-à-dire des potages. Je tourne toujours autour de ça, je suis désolé, mais je ne peux pas faire autrement parce que c'est l'essentiel du bien manger et du bien boire, c'est de manger salé et c'est surtout de manger très riche avant la prise du jeûne. Donc ne pas faire l'erreur de se gaver à la rupture du jeûne. Ça, c'est la grosse erreur que commettent beaucoup de gens.
Encore une dernière question de Mohamed à Conakry qui dit pourquoi quand je coupe le ramadan, je me sens si fatiguée que je m'endors aussitôt et n'arrive même pas à me réveiller pour prendre le petit déjeuner.
Je pense que c'est parce qu'il y a une erreur la nuit précédente. Et je pense que ce qu'il faut, dans votre cas, c'est préparer votre ramadan la veille. C'est aujourd'hui qu'il faut vous le préparer. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui qu'il faut que vous vous contentiez d'un potage en fin de journée, que vous alliez vous coucher le plus tôt possible et que vous soyez en pleine forme pour manger comme un goinfre volontairement et en tout bien, tout honneur, que vous mangiez énormément avant le démarrage et vous verrez, votre première journée sera beaucoup moins pénible que l'année précédente.
Je voudrais finir avec une dernière question avec vous Stéphane, un auditeur à Douala qui nous a laissé un message en disant « J'aurais suggéré quelque chose, vu que nous sommes à quelques semaines du mois du ramadan, j'aurais voulu que vous parliez un peu des vertus du jeûne. » Justement, Stéphane Besançon, cette période de jeûne peut être profitable pour la santé?
Oui, je pense, elle peut être profitable, je pense qu'Alain l'a dit tout à l'heure, à condition d'avoir de nouveau de ramener vers une alimentation équilibrée. Si ça permet de ramener des gens qui ont une alimentation un peu déséquilibrée ou qui font des écarts ou des choses comme ça vers une alimentation équilibrée, de reprendre, j'allais dire, des bonnes habitudes d'hygiène de vie en termes de sommeil, en termes de planification de la journée alimentaire, de repos, etc., ça peut être que positif. Maintenant, c'est vraiment là-dessus qu'on se bat, c'est-à-dire de se dire, il faut que ça soit pas un moment où il faut changer la nourriture dans le mauvais sens, mais plutôt changer l'alimentation dans le bon sens pour le ramener vers quelque chose d'équilibré et de sain.
Docteur Delabois, un mot de conclusion?
Mais je suis d'abord très heureux d'avoir entendu Stéphane et je lui transmets toutes mes amitiés de médecin en France à son boulot à Dakar. Et puis merci Claire de m'avoir invité et je vous souhaite à tous et à toutes un très bon ramadan, mais écoutez nos conseils, je pense que vous en trouverez beaucoup mieux.
Priorité santé sur RFI.
Et pour terminer, on va faire un point sur la résistance aux antibiotiques à l'occasion du 5e forum mondial sur les infections nosocomiales et la résistance aux antibiotiques qui vient de se dérouler à Annecy en France. Marc Miller, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur médical de Bio-Mérieux. D'abord, qu'est-ce qu'on met sous ce terme de maladie nosocomiale ?
Alors, une maladie nosocomiale, c'est une maladie qui est acquise à l'hôpital. Alors, une infection nosocomiale, c'est une infection que le patient n'avait pas lors de son admission à l'hôpital, mais qui se développe pendant l'hospitalisation.
Et quelle est la fréquence, justement, de ces maladies nosocomiales? Et est-ce qu'elle est liée à la question, le problème des résistances aux antibiotiques derrière?
Oui, alors les infections nosocomiales les plus fréquentes sont comme la pneumonie, l'infection d'une plaie chirurgicale après une opération, l'infection urinaire, etc. Et la fréquence, ça varie beaucoup selon le type d'infection, l'état de santé du patient, par exemple, quelqu'un qui est diabétique ou qui a une insuffisance terrain, autre maladie va avoir à subir une infection nosocomiale beaucoup plus fréquemment que les autres. Par exemple, quelqu'un de 40 ou 50 ans qui subit une chirurgie pour réparer une hernie présente un très très faible risque, mais une autre personne qui reçoit de la chimiothérapie pour une leucémie, par exemple, dont le système est très fragile, qui est hospitalisé pendant plusieurs semaines va avoir un risque assez élevé. Et la résistance aux antibiotiques devient de plus en plus importante. Une infection avec une bactérie résistante ces jours-ci, résistante à plusieurs antibiotiques, est beaucoup plus difficile à traiter. Le choix d'antibiotiques est beaucoup plus restreint. Les effets secondaires de ces antibiotiques...
Voilà. Et justement, devant ça, il y a une liste de recommandations qui a été établie pour lutter contre la résistance aux antibiotiques. À la suite de cela, une étude a été lancée pour évaluer cette consommation d'antibiotiques et le problème de résistance. L'objectif, c'est quoi?
Oui, c'est ça. Alors, cette étude a pour objectif de faire un état des lieux de taux de prescription des antibiotiques et de décrire les pratiques en détail mondial. Alors, ça veut dire qu'on a eu beaucoup de participants des hôpitaux globaux qui ont participé, et puis de faire une comparaison entre des hôpitaux de même type par pays et même par région. Et ces renseignements vont être donnés aux hôpitaux afin qu'ils puissent faire une meilleure prise en charge des patients avec tout ça, de faire des décisions qui vont impacter la prise en charge.
Et pour terminer, est-ce que vous auriez justement une recommandation à donner? Attention à l'usage des antibiotiques?
Ah, mais oui, alors mais le rôle de diagnostic est clé dans la lutte contre la résistance bactérienne. C'est un outil assez essentiel. Et puis nos recommandations, vraiment, c'est de continuer de soutenir des initiatives comme ça, comme cette étude, de favoriser les rencontres entre des experts du monde entier, comme on a fait avec le World HIV Resistance Forum, et puis vraiment de continuer de mettre beaucoup d'accent sur l'importance de la formation des professionnels de santé pour lutter contre la résistance bactériennes dans le monde, parce que ça, c'est une croissance énorme, et puis il y a beaucoup de pays qui ont vraiment signalé une urgence avec ça.
Et c'est une question qui concerne aussi bien le Nord que le Sud. Merci beaucoup, hein, Marc Miller, vous nous tiendrez au courant justement de ces études. Je rappelle que vous êtes directeur médical de Biomérieux. Merci également docteur Alain Delabeau. Je rappelle que vous avez publié Bien se nourrir pendant le ramadan de l'été, un livre qui paraît aux éditions Albin Michel. Vous êtes d'ailleurs venu avec 4 exemplaires à faire gagner aux auditeurs. Pour cela, il suffit de s'inscrire sur Facebook. Vous nous mettez un message et puis on fera un tirage au sort. Donc, 4 livres à gagner, Bien se nourrir pendant le ramadan de l'été. Demain, on parlera d'un tout autre sujet. On va parler de la drépanocytose parce que dans 2 jours, ce sera la journée mondiale de lutte contre cette maladie. Vous pouvez dès maintenant nous faire part de vos questions au 33 1 84 22 75 75. Et bien sûr, comme toujours, les réseaux sociaux pour nous laisser des messages. Merci à tous pour vos questions. Et à demain, je redonne le téléphone de l'émission, le 33 1 84 22 75 75. Merci à toute l'équipe de Priorité Santé. À demain.